table nantaise, grande table du vendredi, c'est parti. Bonjour à tous, on est en direct et en public des Utopiales, le festival international de science-fiction. Codé, décodé, voici le thème de cette nouvelle édition et notre fil d'Ariane aujourd'hui. Dans le labyrinthe des mondes possibles, Jules Verne reste un guide aussi clairvoyant qu'incontournable, surtout ici à Nantes, sa ville natale. Jusqu'à midi et demi, voyage avec mes invités au centre de son imaginaire. Puis, des langues vivantes et des langages formels, des algorithmes et des hommes. Avec tout ça, on n'est pas loin de faire un nouveau monde. À partir de 12h55, deux écrivains, l'un romancier, l'autre philosophe, nous rejoindront. Alain Damasio et Gilles Dovec mettront leur puissance de raisonnement et d'imagination au service des auditeurs citoyens que vous êtes, que nous sommes. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Nantes, épicentre de la galaxie, Jules Verne, l'auteur de Voyage au centre de la Terre, du Tour du monde en 80 jours, ou encore de 20 000 lieues sous les mers, y a son musée, tout d'abord. Et avec nous, sa directrice, Agnès Marcetto, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Actuellement, une exposition consacrée aux femmes de Jules Verne.
Absolument. Hein,
à voir jusqu'à l'an prochain, on y reviendra. À vos côtés, Patrice Guiguer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du lieu unique, lieu emblématique de la vie culturelle nantaise. Agnès Marcetto, je rappelle que vous êtes directrice et conservatrice de musée Jules Verne, mais aussi fondatrice de la revue Planète Jules Verne. Vous êtes, quant à vous, Patrice Guiguer, un grand spécialiste de l'homme, du sujet de son œuvre, de la Suisse à Nantes, ici. Vous avez parcouru son œuvre, vous lui avez offert, vous aussi, des pièces de musée, et vous continuez à vous pencher sur tout ce monde qu'il a su créer et recréer. Coder, décoder, c'est le thème de cette nouvelle édition des Utopiales, ici, à Nantes. Inviter Jules Verne dans cette édition, est-ce que c'est pour vous un anachronisme, Patrice Guiguer ?
Alors, pas du tout, bien sûr, puisque Jules Verne, comme vous l'avez dit, il est bien chez lui ici, puisqu'il est né à Nantes, il y revenait souvent. C'est une ville de forte inspiration. C'est, malgré ce qu'on dit, l'un des pères de la science-fiction, puisque le genre s'invente au milieu des années 1920 en faisant référence à Jules Verne et à H.G. Wells. Donc c'est une figure titulaire, donc il a évidemment sa place ici. Et il code, et il décode souvent. Je laisserai Agnès expliquer un peu comment il code. On trouve des codes chiffrés, des codes alphabétiques également dans son œuvre souvent, entre autres dans les projets qui font référence à Edgar Allan Poe. Et il, d'une certaine manière, il décode le monde aussi, hein, puisque le projet de Jules Verne, c'est la connaissance du monde, la connaissance géographique, et au-delà de la connaissance géographique, des mondes inconnus, puisque le sous-titre des ouvrages de Jules Verne, c'est « Monde connu et inconnu ». C'est vraiment l'exploration à travers la technique, la technologie, l'aventure humaine. Donc, il décode l'environnement humain.
Est-ce qu'il y a un code source, Agnès Marcetto, un code source Jules Verne ?
Alors, s'il y a un code source Jules Verne, c'est qu'effectivement, il conçoit son œuvre comme un grand décryptage du monde. Et en fait, c'est un décryptage du monde qui l'entoure lui, mais qui aujourd'hui a gardé toute son actualité. Donc c'est pourquoi on continue à... C'est essentiellement d'ailleurs la raison pour laquelle on continue à lire Jules Verne aujourd'hui.
Certains ont parlé de son œuvre comme d'un gigantesque ou monumental cryptogramme,
oui.
Hein, ce qui la résume assez bien. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de roman, de livre de Jules Verne, où le code se fait révélation, peut-être avec le capitaine Grant ou les enfants
absolument.
Du capitaine Grant, pour commencer. Ça commence avec une bouteille à la mer.
Hein. Exactement. Dès les premiers romans, il utilise les messages codés comme un argument romanesque. Donc les enfants du capitaine Grant, c'est un excellent exemple, puisque en fait, ça va lui permettre de dérouler toute l'intrigue. Puisqu'en fait, on trouve dans une bouteille un message, mais en fait, on trouve trois fragments en trois langues différentes, et en fait, il faut assembler les fragments pour essayer de comprendre le message. Et les héros, parce que Jules Verne aime beaucoup ça, évidemment, vont se tromper d'assemblage. Et ce n'est que progressivement qu'ils trouveront la réalité. Mais au même moment, il publie Voyage au centre de la Terre, et pour aller au centre de la Terre, il faut aussi passer par un message codé. Et ça se passe d'une manière que Jules Verne affectionne particulièrement, puisque en fait, après avoir tourné le message dans tous les sens, ce n'est que le hasard qui permettra de trouver la solution. Et Jules Verne, il pense aussi que le hasard est un code très 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 important.
Est-ce qu'il y a une langue code avec Jules Verne, Patrice Guiguer ? Est-ce qu'il a inventé son propre langage ?
Alors, il a inventé, Agnès peut-être va me contredire, mais je pense qu'il a inventé une forme de langage romanesque très, très particulière. On a tendance à limiter Jules Verne à quelques romans, que vous connaissez évidemment, 20 milieux sous les mers.
Ceux que j'ai cités en introduction.
Etc. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres romans qui sont fascinants, qui sont politiques, qui contestent l'évolution du progrès technologique. Je pense aux Indes Noires, l'invasion de la mer, la Jangala, d'autres, les 500 millions d'Abégum, que je vous invite à lire. Et en fait, il y a une construction très particulière de la narration chez Jules Verne. Il affectionne les héros, comme le disait Agnès, il affectionne les protagonistes qui transforment l'environnement dans lequel ils vivent, ce qui est quand même une assez grande nouveauté. Vraiment, les personnages transforment le monde, décryptent le monde, le transforment, le réinventent parfois. Eux-mêmes évoluent assez peu dans ce processus, ce qui est aussi assez intéressant. Ce sont des personnages qui sont, à l'inverse d'un personnage balzacien, je dirais, un personnage qui reste intègre, qui reste entier, alors qu'il transforme le monde. Ce qui est quand même assez, d'une certaine manière, un peu nouveau, je pense. Il y a aussi ces célèbres descriptions encyclopédiques qui viennent ajouter vraiment quelque chose de très particulier et que l'on retrouve vraiment pas si souvent avant Jules Verne. Et je pense que là, on tient des pistes qui doivent encore être analysées. Jules Verne, en tant qu'écrivain, ce n'est pas l'écrivain pour la jeunesse, ce n'est pas que du divertissement, ce ne sont pas que des idées novatrices, puisque ces idées novatrices, elles ne sont pas tant techniques ou technologiques que des idées littéraires.
Même s'il a quand même influencé, inspiré un nombre incalculable de scientifiques et de savants, il a bien sûr marqué aussi le paysage littéraire du XXe et du XXIe siècle, les deux siècles qui lui ont succédé. Vous évoquiez cette personnalité et cette œuvre aussi à la marge. C'est Pierre-Louis qui disait de lui qu'il était un révolutionnaire souterrain. Avec Jules Verne, il y a une exploration des marges, des mondes de l'ombre, du prolétariat. C'est les Indes Noires que vous citiez, mais aussi Voyage au centre de la Terre. On va se balader ensemble jusqu'à midi et demi dans l'œuvre de Jules Verne. Juste pour revenir avec vous, Agnès Marcetto, ce qu'évoquait en ouverture de cette discussion Patrick Guiguère, on est dans un festival ici de science-fiction. Est-ce que Jules Verne est un auteur de science-fiction ? Est-ce qu'il est même un des pionniers, un des premiers auteurs de science-fiction français ? D'autres le rattachent plutôt à un courant de technique fiction. Vous le placez où ?
Alors, Jules Verne, il a effectivement inventé son genre. C'est un genre qui a ensuite beaucoup inspiré, mais qui sans doute n'a jamais été véritablement égalé. Non pas que d'autres n'aient pas fait aussi bien ou mieux que lui, mais ils ont fait différemment. Alors, on ne peut pas dire que Jules Verne est un auteur de science-fiction pour une raison très simple, c'est que c'est pas lui qui invente ce genre. En revanche, il est un précurseur revendiqué par ceux qui vont inventer la science-fiction dans les années 20 aux États-Unis. Leurs deux références, c'est Wells et c'est Jules Verne. Alors, si Wells est le père, Jules Verne pourrait être le grand-père, mais en même temps, Verne et Wells, ils sont relativement contemporains, et Verne a été toujours très attentif à signaler ses différences avec Wells. Donc, en fait, il crée un genre qu'on appelle le merveilleux scientifique, pourquoi pas, mais surtout, je crois qu'il a son œuvre à écrire, il a sa propre vision à faire passer. On a quelquefois dit que l'œuvre de Jules Verne, c'était un univers. Alors, la formule est jolie, mais en même temps, elle est exacte. En fait, je pense que l'œuvre de Jules Verne, ce qui lui importait à lui, c'était le regard sur le monde. Mais en portant ce regard sur le monde, il s'intéresse à ce qu'est la révolution technologique de cette fin du 19e siècle. Et puis, il porte un regard un peu de moraliste. Il s'interroge sur l'usage que l'homme va faire de toutes ces nouvelles technologies et comment l'homme va continuer à habiter le monde. Alors forcément, sur ces deux volets-là, il est un précurseur important des science-fiction.
Univers, multivers, pour reprendre le titre d'un des ouvrages de notre invité, Patrice Guiguère, multivers. Dans quelle tradition littéraire s'inscrit-il ? Il y a ce merveilleux scientifique, mais est-ce qu'il y a aussi cette idée chez lui vraiment ancrée des mondes possibles, des mondes parallèles auxquels on peut l'associer à travers son œuvre ?
Alors, les mondes parallèles, je ne sais pas, mais en tout cas, les mondes qui reste à découvrir, oui, au moins de façon littéraire. Et c'est ça, en fait. Jules Verne n'est pas toujours en train d'adhérer à ce qu'il écrit au niveau d'une forme de crédulité, on va dire, réaliste ou scientifique. Il est en train de créer une œuvre littéraire, comme l'a rappelé Agnès. C'est un univers qu'il crée. Il n'est pas seulement en train... Lui, il prétend décrire l'univers dans lequel il vit, ou dans lequel nous vivrons, mais en fait, il ne fait pas tellement ça. Il crée son propre monde. Donc, les multivers qu'il décrit, ce sont les multivers de la littérature, et il ouvre des possibles. Puisque au départ, ou d'une certaine manière, au départ de sa carrière, il a plutôt tendance à repousser les frontières, on va dire géographiques, comme on le rappelait tout à l'heure. Et ensuite, ces frontières, elles se déplacent. Il va dans la terre, il va dans les mers, et ensuite il part dans l'espace. C'est-à-dire qu'il transforme ces frontières, les frontières de la connaissance, au moins de la littérature. Et comme aussi le rappelait Agnès, il le fait d'une manière qui se veut réaliste. Et il est très très attentif à une forme de vérisimilitude, comme on peut le dire. Il critique Wells pour qu'il estime très paresseux, d'une certaine manière, à inventer un matériau anti-gravité pour aller sur la Lune, alors que lui a pris la peine de faire des calculs, de demander à des gens comment est-ce qu'on pourrait vraiment aller sur la Lune, non pas pour dire on ira sur la Lune comme cela, mais pour créer un élément qui est essentiel à la science-fiction, en fait, c'est la suspension d'incrédulité consentie. Quand on lit un roman de Jules Verne, à l'époque de Jules Verne déjà, on ne se dit pas que c'est impossible. C'est peut-être un peu farfelu parfois, les personnages sont farfelus, puisque la présence des marginaux, comme vous l'avez dit, est très importante. Hein. Ce sont les gens un peu fous qui font avancer la société. Ça qui m'intéresse aussi chez Jules Verne.
Et je crois qu'en fait, l'exception vernienne, c'est qu'en fait, il y a vraisemblance et en même temps, il y a fantastique. Patrick rappelait que l'une des inspirations essentielles de Jules Verne, c'est Edgar Poe. Et en fait, Jules Verne, il crée le fantastique. Et il le crée d'autant plus qu'il préserve apparemment la vraisemblance. Alors, s'il y a des mondes parallèles, effectivement, ce sont ces mondes fantastiques-là. Et puis, effectivement, il a, par, je crois, un goût personnel, une espèce d'humour quelquefois potache, le goût de créer des personnages excentriques. Et cette excentricité, en fait, conduit l'intrigue et quelque part conduit le monde pour lui.
Agnès Marcetto, pour comprendre, ce n'était pas qu'un aventurier de papier, il était aussi voyageur, navigateur. Jules Verne avait le pied marin. Il est un enfant de quel monde, au singulier ou au pluriel ?
Alors, il est donc, comme vous le rappeliez, né à Nantes en 1828. Son père était avoué, pas nantais d'origine. Hein, il s'était installé quelques années auparavant à Nantes. Et puis, il épouse Sophie Allotte de La Fuy, donc d'une famille installée de manière assez ancienne en Bretagne et en Joux, donc aussi à Nantes. Et donc, il grandit dans cette famille qui est une famille de la bourgeoisie nantaise. Donc, il est évidemment influencé par ce contexte. À l'époque, Nantes, c'était comme c'est encore aujourd'hui un port, sauf qu'à l'époque de Jules Verne, le port, il était dans la ville. Donc, Jules Verne, il a rêvé tout petit face à ces grands bateaux à voile de la marine marchande. C'est lui qui nous le dit, et ça façonne son imagination, ça façonne sa sensibilité. Et puis, il était d'une famille où on appréciait beaucoup les lettres et les arts. C'est également son expression. Et donc, ses parents lui ont tout simplement passé le virus. Et puis, sur cet enfant-là, puisqu'il y en avait, il avait quatre frères et sœurs, sur lui, sur Jules, sur le premier-né, le virus a pris au-delà de toute espérance.
Oui, il est né entre deux bras de fleuve, deux bras de Loire, hein, donc presque sur une île.
Sur une île, à l'époque.
Sur une île, à l'époque, avec ce goût pour l'insularité qu'on va retrouver dans plusieurs de ses romans, île, port, bateau. Il y a toujours une promesse aussi avec lui et pour Jules Verne. Je vous propose qu'on entre dans son monde un peu autrement, en son. C'est un voyage imaginaire, signé Gilles Blanchard.
L'histoire commence en 1867, à l'époque où il n'y avait pas encore d'avion dans le ciel et aucune voiture sur les routes.
Whatever you have imagined in your wildest dreams now becomes a visual reality. As Jules Verne's most fantastic adventure in space and time becomes an amazing film experience.
Chargez les soupapes, en avant toutes!
C'est un bateau, mes amis.
L'animal que vous vouliez harponner, Ned, a été construit par la main des hommes. C'est un bateau sous-marin.
Sous-marin ?
Le Nautilus.
Voilà le Nautilus.
Je suis le capitaine Nemo. Je commande le Nautilus.
Qui est l'âme des appareils mécaniques. Cette agence est...
C'est l'électricité.
L'électricité qui éclaire, chauffe et actionne les quatre moteurs du Nautilus.
Mars 1865, la guerre de sécession touche à sa fin. Échoués sur une île déserte à la suite de leur évasion, quatre hommes et un enfant parviennent à survivre à force d'ingéniosité et de courage. Smith et Nab, munis de paratonnerres portatifs, forcent le barrage de foudre qui protège le territoire interdit et en font l'exploration.
L'émission fonctionne toujours ?
Je demande confirmation.
L'émission se déroule parfaitement.
On ne connaissait à Phileas Fogg, ni femme, ni enfant, ni parents, ni amis. Il vivait seul dans une demeure où un domestique suffisait à son service. Phileas Fogg observait sans bouger d'un cil l'aiguille d'une pendule compliquée indiquant heure, minute, seconde, jour, année, que sais-je encore.
Quelle heure avez-vous ?
11h22.
Monsieur Fogg, Monsieur Fogg !
Au septième coup de l'horloge, les groupes du fond s'entrouvrent et s'écartent. Fogg est apparu, vêtu en parfait gentleman et achevant de mettre son gant.
Voilà, messieurs.
Les hommes de ce 29e siècle vivent au milieu d'une féerie continuelle, sans avoir l'air de s'en douter. Aujourd'hui même, ce 25 juillet de la présente année 2890. Si depuis tant d'années on transmet la parole par des courants électriques, c'est d'hier seulement que l'on peut aussi transmettre l'image. Précieuse découverte.
Mesdames et messieurs, je vous présente le centre de la Terre.
Regardez comme c'est beau!
C'est de la folie furieuse! Allons-nous nous faire écrabouiller dans cette machine démentielle?
Telle n'était pas mon intention.
Faites monter, voyons! Jetez donc un peu de lest, n'est-ce pas ainsi qu'on fait?
Parfaitement exact, sauf que nous n'avons pas de lest.
Bon, on n'a pas de lest?
On n'a pas de lest, à part nous-mêmes. À moins que l'un de nous veuille bien sauter par-dessus bord pour sauver les autres.
Stop! L'aventure est terminée. Nous allons retourner à la civilisation.
Le sol de la cité des congrès de Nantes a tremblé, la cité de Nantes où nous sommes, cité des congrès de Nantes où nous sommes en direct et en public à l'occasion du Festival international de science-fiction des Utopiales qui se tient ici jusqu'au 4 novembre. Patrick Guiguer, vous aurez reconnu ?
Alors j'étais en train de discuter avec Agnès de Jules Verne justement et on se posait la question de savoir si toutes ces adaptations donc que vous passez ici ont plutôt servi ou pas cet auteur qui a une image quand même assez étonnante et justement de nouveau comme on l'a dit tout à l'heure un peu lié à la littérature jeunesse évidemment ça s'est construit dès le début avec son éditeur Hetzel qui a commercialisé Jules Verne sous cette forme un peu mais c'est vrai que on se pose la question de savoir si Disney 20 milieux sous les mers etc avait fait du tort dans cet imaginaire, si ça n'avait pas un peu galvaudé cet imaginaire. Mais là, on a entendu beaucoup, beaucoup d'extraits. Il y avait la journée d'un journaliste américain en 1889.
Oui, on a reconnu facilement le tour du monde en 80 jours, 20 milieux sous les mers. Et en fait, je pense que le dernier extrait, c'était cette petite nouvelle là, qui se passe dans les airs, avec un homme fou qui veut monter toujours plus haut.
Ça, il faut regarder Gilles Blanchard qui est derrière et qui a composé cet élément, mais je ne suis pas sûre qu'il en soit revenu de ce voyage, hein, parce qu'il a quand même parcouru beaucoup de planètes et de destinations différentes.
Intéressante petite nouvelle, parce que souvent dans les nouvelles, Jules Verne est plus libre d'exprimer exactement ce qu'il pense.
Voilà, il y avait du 20 milieux sous les mers, l'île mystérieuse, voyage au centre de la Terre. Vous l'évoquiez, la journée d'un journaliste américain en 1889, le tour du monde en 80 jours. et tant d'autres. La possibilité quand même, ou l'occasion d'évoquer un peu le patrimoine à la fois sonore et iconique vernien, c'est ce que vous aviez fait, hein, Patrick Guiguer, il y a 3 ans, au lieu unique, dans une exposition intitulée « Jules Verne, grand écran », où vous interrogiez la place du cinéma, le rôle du cinéma, a-t-il trahi ou révélé l'auteur dont on parle aujourd'hui, Jules Verne, pour ne citer encore et encore que lui. Jules Verne, il aurait sûrement été un grand cinéphile, non ?
Je pense qu'il aurait été un grand cinéphile, et d'ailleurs je crois savoir qu'il a pu voir certaines expérimentations. Et il s'intéressait en tout cas, comme dans le Château des Carpates, on sait qu'il s'intéressait au principe optique de diffusion d'images, puisque les présences fantomatiques qui apparaissent dans ce roman sont des projections. Hein, et je pense qu'il aurait été un grand cinéphile.
Il était encore vivant lorsqu'il y a eu les premières adaptations. Alors, adaptation, lorsqu'il a inspiré Méliès. Voilà, lorsque Méliès fait les premiers films inspirés par Jules Verne est encore de ce monde.
Mais il a quand même écrit aussi une œuvre qui est très cinéphilique, avec des images et du mouvement absolument partout, entre les lignes.
Alors, en fait, Jules Verne, une des raisons pour lesquelles Hollywood s'en empare tellement vite, c'est qu'en fait, il écrit des excellents scénarios.
C'est un scénariste.
Mais c'est parce que Jules Verne lui-même, son premier métier, c'était auteur dramatique. Donc, il a absolument ce sens du rebondissement et qui est effectivement fait toujours recette.
Bon, il faut quand même qu'on parle de sa vision du monde, même si c'est sûrement le sujet d'un vaste exposé ou de thèses nombreuses. Était-il un pessimiste ou un optimiste ? Il y a ces mots de lui dans sa correspondance, après qu'il ait perdu une patte, hein, qu'il ait eu une patte un peu folle. Il écrit aussi « J'ai également perdu une oreille. Je ne risque donc plus d'entendre que la moitié des sottises et des méchancetés qui courent de par le monde. C'est une grande consolation. » Il avait indéniablement aussi beaucoup d'humour, Jules Verne. Vous diriez qu'il l'envisageait comment, ce futur ? C'était un avenir craint ou fantasmé pour lui ?
Alors, je pense effectivement qu'il avait un regard... tout à fait sans naïveté, et aussi un regard très interrogateur, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme et la société d'utiliser correctement la technologie. De toute façon, lui-même, je pense qu'il était en fait un sceptique et un ironique. Et je pense d'ailleurs que ce sont deux de ces qualités que j'apprécie tout particulièrement, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles son œuvre a une telle force et reste tellement présente. C'est-à-dire que comme il ne se laisse entraîner par aucune idéologie, comme il n'adhère pas, parce que ce n'était pas sa nature, il a cette capacité à porter un regard sur le monde qui fait réfléchir et qui reste finalement assez froid. Alors, il avait certainement un fond de pessimisme, mais je crois beaucoup plus précieux pour nous, un grand scepticisme.
À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. Ça, c'est dans 5 semaines en ballon, Patrick Guiguer, sur cette relation qu'il avait au progrès, à la science, à la technologie, et là où elle nous mène.
Alors, Jules Verne, l'une de ses forces aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a écrit pendant plus de 40 ans. Donc, il y a non seulement pléthore de romans, mais il y a évolution de sa pensée. Il y a évolution du monde aussi autour de lui. Hein. Un très important changement à la fin du 19e siècle. Il y a la guerre de 1870. Enfin, vraiment la prolifération des machines à vapeur, des engins volants. Donc, il y a vraiment... Il documente cela, il s'inspire par cela. Il ne craint pas forcément ce progrès, mais il est quand même... Je crois qu'il craint plutôt ce qu'en font les hommes. Et quand on lit parmi ses derniers romans comme L'invasion de la mer, qui est sur la volonté de créer des mers artificielles en Afrique du Nord, qui était un vrai projet d'ingénieur français à la fin du 19e siècle, eh bien, il est très critique, vraiment, et c'est un ouvrage très politique. Donc, on voit que sa pensée évolue. Mais pour cela, il faut, comme le font les Verniens, se pencher sur les manuscrits qui sont, entre autres, ici à Nantes, puisque derrière Jules Verne, au-dessus de son épaule, il y a toujours son éditeur, Hetzel, qui corrige, qui amende, qui l'empêche, en fin de compte, de publier, d'être libre de publier ce qu'il veut, qui le soutient, évidemment, qui lui permet d'être un écrivain qui vit à peu près de sa plume, même si c'est plutôt le théâtre qui le fait vivre. Mais on peut imaginer qu'avec un autre éditeur, moins interventionniste, Jules Verne aurait été un autre écrivain. Il aurait peut-être été plus un écrivain d'anticipation, par exemple, puisque c'est dans ses premiers écrits, il est très intéressé par le futur, et ensuite il est plutôt sur une écriture description géographique.
On laissera tout à l'heure le producteur de France Culture, Victor Massé de l'Épinay, interroger son invité, le dessinateur illustrateur Mathieu Bablet, sur un éventuel héritage vécu, ressenti entre lui et Jules Verne. Il y a probablement plus de Miyazaki d'ailleurs dans son œuvre. En tout cas, il est exposé ici en ce moment dans le cadre de ses Utopiales, ces magnifiques dessins qui sont aussi qui ont permis de réaliser l'affiche de cette nouvelle édition du Festival international de la science-fiction. On peut parler d'un autre bonhomme, il est tout bleu et il se balade actuellement chez vous, Patrick Guiguer. Faites attention au lieu unique de Nantes, une exposition à voir jusqu'au 5 janvier. Blue Man, 20 ans de voyage autour du monde d'un bonhomme assez étrange et bizarre. Avec nous, Oriane Delacroix de la Grande Table, qui a parcouru rapidement et dans le noir, puisque nous sommes un jour férié aujourd'hui, cette exposition.
Et en fait, c'est l'occasion, cette exposition, de revenir sur le voyage du Blue Man, que moi, j'avais jamais croisé. Je ne sais pas si vous, Olivia,
non plus,
vous l'avez croisé. Mais le Blue Man, il déambule, il parcourt le monde entier depuis 20 ans. Donc, il a un grand costume bleu, il ne parle pas, il s'installe dans des lieux et il filme les gens réagir à sa présence, en quelques mots. Donc c'est difficile de définir vraiment ce qu'il fait, mais peut-être qu'on peut d'une certaine manière rattacher ça à la performance, dans le sens où sa présence produit une étrangeté, un décalage dans le réel et dans le quotidien. Donc lui qui est si différent, qui intrigue, il pousse les passants à s'interroger. Donc qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi est-il là? Donc il est donc en fait surtout une grande et puissante machine à imaginaire. Dans cette exposition, par exemple, on le voit à Malmö en 2012, à Mexico en 2003, à Londres en 2004... à Dakar en 2017. Donc lui, en fait, il est né des expérimentations d'un homme qui s'appelle André Kuenzi. Mais peut-être que Patrick Guiguer, vous pouvez nous expliquer l'origine de ce projet.
En un mot.
L'origine du projet, c'est l'idée qu'il y a une vingtaine d'années, pour faire des films avec des effets spéciaux, on avait des écrans bleus derrière les personnages. Et là, l'idée, c'était de dire, on va filmer des vrais environnements et c'est le personnage qui sera un écran bleu sur lequel on pourra projeter chaque fois des gens différents. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe, c'est qu'on projette sur cet homme bleu nos fantasmes, comme vous l'avez rappelé, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi il se déplace, il questionne, et comme il ne parle pas, il n'amène aucune réponse. Et donc les gens se font leurs propres histoires, et voilà, il est générateur de micro-fiction.
Voilà, c'est un personnage entre la réalité et la science-fiction, lui aussi générateur de micro-fiction, un anonyme. Ce Blue Man on Tour, on peut le voir en ce moment au lieu unique de Nantes que vous dirigez, Patrick Guiguer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci mille fois à vous également, Agnès Marcetto. Je rappelle qu'une exposition est en cours sur Jules Verne et les femmes en ce moment au musée Jules Verne de Nantes. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.